à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Espace. Nous sommes le 26 novembre 2061, 10h30, en direct de la station Mariana, à l'endroit précisément où nous avions pris le premier contact avec la comète de Halley en 1986. Aujourd'hui, 75 ans après, nous allons assister en direct au retour de la comète et à l'événement le plus important de notre siècle, l'arrimage du vaisseau Spatiodis sur le noyau de la célèbre comète. Mais avant de commencer cette émission, laissez-moi vous présenter nos invités. Tout d'abord, le professeur Halley. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes, je crois, un descendant du grand savant Halley, qui a beaucoup étudié les comètes.
Oui, en effet, je suis le 12e descendant du professeur Halley, qui a vécu de 1656 à 1742, et qui a prédit en particulier le retour de la comète en 1758.
Merci professeur. Présentons maintenant nos deux jeunes invités. Benjamin Tardy, 11 ans, brillant élève du collège d'Ormont à Paris, et Florent Cauzet, 14 ans, lycéen à Carac dans le Var. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Je sais que tu es passionné d'astronomie. Qu'aimerais-tu faire plus tard après tes études ?
Oh, j'aimerais bien être cosmonaute.
Cosmonaute, c'est un très très beau métier. Et toi Florent, as-tu une idée de ta future carrière ?
Oui, bien sûr. J'aimerais être un savant du cosmos.
Un savant du cosmos, parfait. Eh bien, en attendant notre premier rendez-vous avec la comète, Benjamin, aurais-tu une première question à poser au professeur ?
Oui, professeur, j'aimerais savoir de quoi sont faits les comètes.
Ah ! Voilà une bonne question. Eh bien, les comètes sont de gros blocs constitués principalement de glace, de poussière et de neige. Probablement un restant de ce qui gravitait autrefois dans notre ancien système solaire. Ces blocs ne se sont pas rassemblés pour former des planètes, non! Ils préféraient rester libres et voyager à leur gré.
Mais d'où viennent ces comètes exactement?
Eh bien, d'après les savants, les comètes habiteraient quelque part très loin du Soleil, beaucoup plus loin que Pluton. Dans une sorte de nuage, comment dirais-je, un réservoir à comètes appelé le nuage de Oort.
Précisons d'ailleurs que Oort est, je crois, le nom du savant qui aurait découvert ce nuage.
Tout à fait.
Florent, une autre question ?
Oui, j'aimerais savoir pourquoi les comètes quittent ce nuage pour venir nous voir régulièrement.
Ah, ça c'est une question encore assez nébuleuse, si j'ose dire. Eh bien, selon les lois de la gravitation universelle, les corps célestes s'attirent mutuellement. Ainsi, au lieu de s'échapper dans l'espace, tout objet à proximité du Soleil est en quelque sorte comme attiré par lui et se met à graviter, c'est-à-dire à tourner autour de lui. Ainsi, notre Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Ceci doit certainement intriguer nos lointaines petites comètes. Certaines un peu plus curieuses que les autres sortent alors de leurs nuages et commencent un grand voyage. Bien sûr, en passant, elle salue toutes les planètes qui se trouvent sur leur chemin.
Eh bien, merci professeur. Et maintenant, une petite pause avec une musique tout à fait de circonstance, Le Voyage dans la Galaxie. Cette très belle musique, revenons sur Radio Espace avec une autre question de Benjamin.
Si les comètes sont attirées par le Soleil, elles peuvent s'écraser sur lui ?
Très juste, Benjamin. D'ailleurs, certaines un peu imprudentes finissent leur jour dans la fournaise du Soleil. Mais heureusement pour nous, pour la plupart, elles s'approchent de très près mais ne s'écrasent pas. Grâce à leur vitesse, ces petites malignes tournent juste derrière le Soleil et repartent dans l'autre sens pour regagner leur nuage. Dans leur course, elles décrivent un immense ovale très aplati qu'on appelle une ellipse.
Et combien de temps peut durer le voyage d'une comète ?
Ah, eh bien cela est très variable. Certaines font leur voyage en quelques années, d'autres mettent plusieurs siècles avant de réapparaître. Par exemple, la comète de Halley, celle qui nous intéresse. Eh bien, elle revient nous voir tous les 75-76 ans. c'est le temps qu'il lui faut pour faire un tour complet sur son ellipse.
Et si une comète passait trop près de la Terre, elle pourrait bien nous tomber sur la tête?
Eh oui, cela pourrait bien arriver. Et c'est probablement déjà arrivé dans l'histoire de notre Terre. Souvenez-vous de nos grands dinosaures, il y a 65 millions d'années. Hein, vous vous en souvenez?
Oui.
Tous les dinosaures ont disparu. Eh bien, cette disparition est peut-être la cause d'une collision de la Terre avec une comète.
Et une comète peut atteindre quelle taille?
Eh bien, certaines sont assez petites, disons de la taille d'un gros rocher. En revanche, d'autres sont beaucoup plus grosses, avec plusieurs kilomètres de diamètre. Imaginez un tel bloc, gros comme plusieurs montagnes, s'écrasant sur la Terre. Ce serait une terrible catastrophe.
Et nous finirions peut-être bien comme les dinosaures. Mais rassurons nos jeunes invités. Il y a vraiment peu de chances pour que cela arrive.
Oui, et puis si cela devait arriver, malheureusement, eh bien, nous trouverions certainement un moyen pour dévier de sa route cette dangereuse petite imprudente.
Oui, Benjamin, encore une question?
Oui, professeur, pourriez-vous nous dire de quoi se composent la chevelure et la queue d'une comète?
Oui, eh bien, tout d'abord, il faut savoir que cette chevelure et cette queue ne sont visibles que lorsque la comète arrive aux alentours du Soleil. Elles sont constituées de gaz, de particules et de poussière qui se sont détachées du noyau de la comète. Illuminées par les rayons du Soleil, ces particules habillent notre comète d'un magnifique voile de mariée. En quelque sorte, réchauffée par le Soleil, la comète se réveille et se fait belle.
Eh oui, c'est bien connu, les comètes sont les amoureuses du Soleil. Merci professeur. Et maintenant, une petite page de publicité.
Vous voyez trouble? Vous voyez double? Vous ne verrez donc jamais la comète de Halley?
Non, il n'est jamais trop tard. Avec la lunette Variastar, fini les trous noirs. Variastar, la lunette des stars. Eh bien, nous retrouvons nos invités sur le plateau de Radio Espace. Dites-moi, professeur, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs la liste des planètes actuellement connues dans notre système solaire?
Alors, actuellement, nous avons recensé, n'est-ce pas, une dizaine de planètes. En partant du Soleil, nous avons quatre petites planètes constituées de matière solide. Tout d'abord, Mercure, assez petite. Puis la brillante Vénus. Ensuite, notre Terre, la planète bleue. Et Mars, la fameuse planète rouge. Nous avons ensuite les grosses planètes constituées principalement de matière gazeuse, la plus grosse Jupiter avec ses nombreuses lunes, puis Saturne et ses anneaux. Viennent ensuite Uranus, Neptune et enfin Pluton et sa jumelle Charon.
Et au-delà de Pluton, je suppose que c'est encore le mystère.
Exactement.
Ah, excusez-moi, professeur.
Oui, bien sûr.
Je crois que nous sommes en liaison avec le vaisseau Spatio 10. Oui? Allô? Allô, ici Radio Espace. Nous vous écoutons. Ah, je crois que nous avons quelques problèmes de communication.
Allô? Allô, ici Spatio 10.
Oui, Nel, nous vous recevons. Où êtes-vous?
Oui, nous sommes actuellement dans la chevelure de la comète. La visibilité est très très faible. Nous sommes à quelques kilomètres seulement du noyau.
Ah, nous vous entendons assez mal. Dites-moi, Nel, une fois l'arrimage réussi, quel sera l'itinéraire de votre voyage en compagnie de la comète?
Oui, eh bien, dans un premier temps, nous allons devoir traverser la dangereuse ceinture des astéroïdes, puis notre Allô?
Oui?
Notre mission...
Oui, Nel?
Puis notre notre mission sera de visiter les planètes lointaines. En particulier, nous approcherons Titan, un des satellites de Saturne, puis la planète Neptune, encore très énigmatique.
Ah, allô, Nel? Ah, je crois que nous avons un petit problème de liaison radio. Allô? Nel, m'entendez-vous? Ah, nous avons été coupés. Eh bien, je pense que nous retrouverons Nel et Spatio 10 dans quelques instants, j'espère. Oui, Benjamin, tu avais une autre question à poser.
Oui, j'aimerais savoir ce qu'est exactement la ceinture des astéroïdes.
Professeur, pouvez-vous répondre?
Oui. Eh bien, la ceinture des astéroïdes est une zone du ciel située entre Mars et Jupiter. Là se promène une multitude de blocs, comme des gros rochers qui tournent comme les planètes autour du Soleil. Pourquoi sont-ils là? On ne sait pas trop. Certains savants pensent que ces cailloux de l'espace qu'on appelle astéroïdes seraient les restes d'une ancienne planète qui aurait explosé à la suite d'une collision.
En quelque sorte, un accident de la circulation dans le ciel.
Oh, je dirais même plus que ça, un cataclysme, ma chère, un cataclysme. Ajoutons que ces astéroïdes sont assez dangereux pour tout le monde. Pour les vaisseaux, pour les comètes, mais aussi pour nous, eh oui. Car très souvent, certains de ces débris de l'espace tombent sur Terre. On les appelle alors des météores, ou des météorites pour les plus petits. Quand ils entrent dans l'atmosphère, ils brûlent et deviennent nos fameuses étoiles filantes.
Excusez-moi, professeur, je vois que nous avons rétabli la communication avec Spatio 10. Allô, Spatio 10?
Nous venons d'apercevoir à l'instant le noyau où nous devrions nous poser d'ici quelques minutes si tout va bien.
Oui, Nel, nous vous recevons parfaitement. Où en est votre atterrissage?
Oui, nous sommes à quelques mètres de la surface du noyau. Encore quelques secondes. Vient de se poser en douceur sur la comète. La première phase de la mission s'est parfaitement déroulée.
Oui, Nel, c'est une totale réussite. Bravo. Je crois que nous pouvons applaudir nos cosmonautes et toute l'équipe de la station Myriana. Pour l'occasion, je vois que le champagne est arrivé. Les bouchons sautent. Croyez-moi, mes chers auditeurs, ici c'est la fête, la joie et même l'euphorie. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Mais avant de nous séparer, professeur, une dernière question. Que pensez-vous de cette réussite?
Eh bien, c'est un très grand événement spatial. Probablement encore plus important que les premiers pas sur la Lune. La comète devient notre véhicule et nous pouvons la guider où bon nous semble dans l'espace. Que de beaux voyages en perspective, ma chère!
Et peut-être un jour, la réponse à une question que tout le monde se pose aujourd'hui, y aurait-il dans l'espace une planète habitée?
Ah, de ce côté-là, soyons prudents! Il est peu probable que nous trouvions sur une planète des petits hommes verts tels que nous les voyons, n'est-ce pas, dans les films de fiction. Mais par contre, pour d'autres formes de vie, ce n'est pas exclu. C'est d'ailleurs le principal objet de la mission Spatio 10. Alors, attendons un peu, peut-être qu'au retour de la comète, nous en saurons un peu plus.
Donc peut-être à bientôt, merci professeur.
Merci à vous ma chère.
Au revoir Benjamin, au revoir Florent.
Au revoir. Au revoir.
Et rendez-vous à tous nos auditeurs pour notre prochaine émission sur Radio Espace.